14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
Il s'est confié à moi sans aucune gêne. J'ai même eu le sentiment qu'il prenait du plaisir à se remémorer ses actes et que cela l'excitait d'en parler.
Bonjour, ravi de vous retrouver en direct et en public depuis la foire de Châlons en Champagne avec aujourd'hui l'histoire d'un homme que l'on a surnommé le tueur au Polaroid, Volker Eckert, l'un des plus redoutables prédateurs de l'histoire criminelle qui a traversé cette région de Champagne, un tueur qui photographiait ses victimes pendant une trentaine d'années. Cet Allemand solitaire a parcouru les routes de France, d'Espagne, d'Italie, de Tchéquie ou de Slovénie à la recherche de jeunes femmes aux cheveux longs, des victimes dont personne trop longtemps ne va se soucier. Au moins 7 meurtres lui ont été attribués, même si les services de police tablent sur 20, 30, peut-être 40 crimes. Des enquêteurs qui ont pu toutefois reconstituer sa trajectoire, un voyage au bout de l'effroi que nous allons raconter aujourd'hui avec nos invités. Volker Eckert, le tueur sans frontières, un camionneur qui collectionnait les meurtres, comment est-il passé si longtemps entre les mailles du filet? C'est l'enquête de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
14h30, 15h30,
l'heure du crime sur RTL.
L'heure du crime aujourd'hui en direct depuis la foire de Châlons en Champagne où je vous raconte la route meurtrière de Volker Eckert, un camionneur allemand qui parcourt depuis des années l'Europe d'Est en Ouest, un tueur invisible dont la course passe à l'automne 2006 par l'Espagne. Dans la soirée de ce lundi 2 octobre 2006, la silhouette d'une jeune femme en mini-jupe et bustier assise sur une chaise pliante se dessine dans la lueur des phares des véhicules qui se suivent et ralentissent sur cette portion de la Nationale 2, l'ancienne route reliant Madrid à Barcelone et la France. Cet axe de circulation, emprunté par de nombreux poids lourds, très passants, est connu pour être un haut lieu de la prostitution. Les filles se succèdent sur 4 ou 5 kilomètres le long de la route, sur la commune de San Julià de Ramis, tout à côté de Gérone. Miglena Petrova Raïm, une jeune bulgare âgée de 20 ans, est l'une de ces filles de l'Est qui vend ses charmes dans ce coin de Catalogne. Auparavant, elle était serveuse dans un restaurant de Dobrich, en Bulgarie. Avec deux de ses compatriotes, elle vivait ces 3 derniers mois à l'hôtel Xavi à Figueres, puis a déménagé à l'hôtel Europa. La journée à l'hôtel, le soir et toute la nuit au bord de la Nationale 2. Miglena est une très jolie jeune femme aux longs cheveux bruns. Elle se vante d'être l'une de celles qui rapporte le plus d'argent. Officiellement, elle fait le plus vieux métier du monde en toute liberté, même si personne n'est dupe. Son souteneur ne serait autre que son mari, un dénommé Séverin Hérol, resté lui au pays. Aux alentours de 18-19 heures, un camion-citerne stoppe sur le bas-côté de la route, à la borne kilométrique 729, là où est installée Miglena. Le chauffeur, un homme au visage creusé, lunettes de vue, cheveux noirs, sourcils épais, s'exprime correctement et d'une voix calme. Il lui demande une prestation un peu spéciale. Il réclame une mise en scène, l'attacher dans la cabine avant d'avoir un rapport sexuel avec elle. Volker Eckert a proposé le même scénario quelques centaines de mètres auparavant à l'une des amies de Miglena, une bulgare prénommée Vicky. Celle-ci, malgré la promesse de quelques dizaines d'euros supplémentaires, a refusé. Elle trouvait le chauffeur un peu trop tordu. Miglena, elle, n'est pas apeurée. Elle a déjà connu des clients ayant toutes sortes de fantasmes. Pour 60 euros, elle monte dans la cabine. Le chauffeur va garer sa semi-remorque dans un coin discret. Vicky a vu le poids lourd s'arrêter devant la chaise de Miglena et celle-ci discuter avec le chauffeur. Puis, elle a perdu de vue son amie. Vicky ne s'est pas inquiétée. Il arrive que des clients souhaitent passer une nuit entière avec une fille. Mais cette absence-là se prolonge. Le lendemain, mardi 3 octobre, Miglena n'a pas regagné l'hôtel Europa. Son mari et protecteur est le premier alerté de cette disparition, cachée pour l'instant aux autorités. Mercredi 4 octobre, le corps d'une jeune femme est découvert dans un petit fossé, non loin d'un terrain de football sur la commune d'Hostalric, en Espagne, à une cinquantaine de kilomètres au sud de San Julià de Ramis. Le cadavre est dénudé, le visage est marqué par des coups, son corps montre des hématomes. Autour du cou, son meurtrier a abandonné une fine cordelette en nylon. La victime porte encore des traces de liens autour de ses poignets. Elle a de toute évidence tenté de se défendre en portant des coups de tête et de pied à son agresseur. Le médecin légiste indique que la victime est morte par suffocation. Elle a été étranglée pendant de longues minutes et a été violée. Même si la morte d'Ostalric ne porte pas de papier sur elle, elle est très rapidement identifiée par la police locale. Sur photo, un fonctionnaire en charge des affaires de prostitution dans la région reconnaît formellement Miglena Petrova Rahim, tout simplement parce que la jeune Bulgare est récemment apparue dans une retentissante affaire judiciaire. Elle a témoigné sur les pratiques d'un haut responsable local de la police accusé de corruption. Miglena a-t-elle payé de sa vie son témoignage? Personne n'y croit, mais l'identification express de la victime permet aux enquêteurs de faire un bond de géant. Les autres prostituées bulgares sont retrouvées. Vicky raconte que le dernier client de Miglena était le chauffeur d'un camion-citerne immatriculé en Allemagne. Elle se souvient bien de cet homme car il lui avait fait une proposition des plus scabreuses. Il voulait l'attacher dans la cabine. La prostituée se souvient vaguement de l'allure de ce type. Mais un détail lui revient à l'esprit. Elle se souvient que son camion portait en grosses lettres l'inscription METRA, une société de transport de Hölsnitz, une petite ville autrefois située en Allemagne de l'Est. En toute discrétion, la police catalane va retracer le parcours du camion-citerne allemand et remonter fatalement jusqu'à celui qui le conduit, sans se douter une seconde que cet homme est l'un des pires criminels du moment, un prédateur qui avait un macabre rituel. Dans les jours qui suivent le meurtre de Miglena, la prostituée de la route nationale numéro 2, la police catalane met tout en œuvre pour retrouver la piste du camion-citerne allemand. Le chauffeur serait un Allemand de 47 ans, un certain Volker Eckert. C'est le nom qu'il a laissé chez Neoplastica, une entreprise de transformation de plastique proche d'Ostalric, là où a été retrouvé le corps de Miglena Petrova Rahim. Le chauffeur a déchargé ici 2 tonnes de billes de plastique. C'était 1 heure environ après que Miglena soit montée avec lui. Le personnel de l'usine n'a vu personne d'autre dans le camion. De toute évidence, la jeune Bulgare était déjà morte et dissimulée dans la cabine. Ce n'est qu'après que le routier se soit débarrassé de son corps qu'une caméra de surveillance du stade Ostalric l'a filmé. Les enquêteurs savent que le camion-citerne a ensuite emprunté l'autoroute AP7 en direction du nord. Le poids lourd a traversé la France, puis a regagné l'Allemagne jusqu'à Hölsnitz en Saxe, le siège de l'entreprise de transport. Un mandat d'arrêt international est rapidement délivré par un juge de Gérone. Les autorités espagnoles transmettent à l'Allemagne l'immatriculation du camion et le nom de Volker Eckert. Ce vendredi 17 novembre 2006 au matin, 1 mois et demi après le meurtre de Miglena, Volker Eckert est à Wessling, dans la grande banlieue de Cologne, pour un chargement. Il doit ensuite se rendre au siège de la société qu'il emploie à Hölsnitz, en Saxe, pour y déposer sa remorque. C'est ici, sur le parking où il doit vidanger la citerne, que la brigade criminelle de Cologne, assistée de 2 enquêteurs venus spécialement de Gérone, décide d'interpeller Volker Eckert. L'homme ne paraît pas surpris par le débarquement des policiers. On lui signifie qu'il est témoin dans une affaire de meurtre, celui d'une prostituée dont le corps a été retrouvé en Espagne. Eckert reconnaît qu'il a transité récemment par Barcelone, s'est rendu en mission en Catalogne, mais il dément toute implication dans un quelconque meurtre. Face aux policiers, Volker Eckert se plaint soudain de violents maux de tête. Il souhaite récupérer une boîte dentalgique dans la cabine de son poids lourd. Un policier soupçonne l'homme de vouloir se faire la belle. Il le suit donc jusqu'au camion. Eckert grimpe dans la cabine. L'enquêteur aperçoit alors sur la moquette, entre les sièges, 3 photos Polaroid. Des femmes dénudées, le cou serré par une corde, visiblement mortes. Le routier indique qu'il s'agit de simples photos porno qu'on lui a données, puis préfère ne plus rien dire. Il est aussitôt placé en garde à vue. La cabine est fouillée. Des cordelettes pouvant servir de lien sont retrouvées sous la banquette, dans une boîte à gants. Les policiers trouvent d'autres photos, ainsi que des touffes de cheveux. Plusieurs mèches de Miglena, la prostituée bulgare, ont été coupées avec des ciseaux. La police perquisitionne également les 2 pièces dans lesquelles vit le célibataire Volker Eckert, dans la petite ville étudiante de Hof, en Saxe. il découvre un amoncellement de photos de femmes découpées dans des magazines érotiques, mais aussi d'autres polaroïdes avec des femmes étranglées. Une poupée gonflable trône dans la chambre sur laquelle ont été collés des cheveux humains, des cheveux de femmes.
En quelque sorte, Volker Eckert s'est dénoncé lui-même. Dès le premier interrogatoire, cela m'a semblé évident. Il a pris le risque d'être découvert parce qu'il en avait marre. Il ne voulait plus tuer. Il était continuellement obsédé par ses pulsions de mort. Il n'en pouvait plus.
Volker Eckert paraît effectivement soulagé d'avoir été arrêté, à croire qu'il avait même fini par l'espérer, même s'il se tait. Au milieu de tous ces trophées, la brigade criminelle de Cologne a mis la main sur une photo de Milena. Elle a également découvert dans le camion et à son domicile des notes manuscrites. Celles-ci sont des aveux avant l'heure. Il s'agit de la description de ces meurtres sadiques, des femmes attachées et martyrisées. Seul moyen pour Eckert d'assouvir son plaisir. Il va falloir désormais comptabiliser et identifier toutes ces femmes dont Eckert n'a pour l'instant que des souvenirs morcelés. Pour cela, il va falloir refaire les trajets du chauffeur. Cela fait 7 ans qu'il parcourt l'Europe au volant de son camion. Il a obtenu son permis poids lourd en 1999. Il admet qu'il a tué des femmes obsédées par leurs cheveux, mais ne donne pas de détails, dément certains faits, garde le silence sur d'autres, à l'expert psychiatre Norbert Nedopil. Il confie que toute sa vie a été en fait placée sous le signe de la violence et du meurtre. Volker Eckert révèle ainsi qu'il a tué pour la première fois le 7 mai 1974, 2 mois avant son 15e anniversaire. C'était à Plauen, la petite ville d'Allemagne de l'Est où il vivait. Il s'était rendu chez une camarade de classe, Sylvia Unterdoffel. Il avait voulu lui caresser les cheveux, elle l'avait repoussé. Il l'avait alors étranglé avec une corde à linge. Il avait pendu le corps inerte de Sylvia à une poignée de porte pour faire croire à un suicide. La police n'avait pas cherché plus loin. Ignorer à jamais le meurtre de Sylvia, qui avait de beaux et longs cheveux blonds. Des polices européennes qui vont se pencher sur les trajets du routier allemand. Parfois, ces passages coïncident avec des meurtres de femmes non élucidées, notamment en France, où Eckert aurait frappé à plusieurs reprises. En Allemagne, Gerhard Schmidt, le procureur de la ville de Hof, là où est domicilié Volker Eckert, décrit un profil criminel inquiétant. Un homme qui a tué alors qu'il n'avait que 15 ans et aurait depuis régulièrement attaqué, violé et tué des jeunes femmes. Depuis une dizaine d'années, Eckert a parcouru des milliers de kilomètres dans toute l'Europe, Allemagne, France, Espagne, Suisse, Italie, Pologne, Tchéquie, Slovénie. Le périple de ses recherches et les potentielles victimes sont impossibles à chiffrer. Après son interpellation, Eckert a évoqué le meurtre d'une prostituée près de Bordeaux, sans autre précision. Le parquet de Saintes, en Charente-Maritime, fait aussitôt le rapprochement avec la découverte, le 25 juin 2001, dans un fossé de l'aire d'autoroute de Chermignac, d'un corps en partie dénudé, portant un collier des Spice Girls. La victime avait été étranglée et frappée 4 jours auparavant. La jeune femme s'appelait Sandra Osifo, 21 ans, nigériane, connue pour arpenter le trottoir bordelais. Un parcours en tout point tragique, Sandra Osifo avait quitté son pays en 1998 pour l'Italie, où elle avait travaillé comme coiffeuse avant de se prostituer. Un client l'avait racheté 21 000 dollars à ses souteneurs, puis Sandra s'était prostituée en France. Son frère, ayant refusé de réclamer le corps, la Nigériane avait été enterrée dans une fosse commune de la région. Eckert se souvient d'elle. Il raconte avoir été attiré par les cheveux de la jeune femme sans savoir qu'il s'agissait d'une perruque dont il prélèvera quelques mèches. Volker Eckert, obsédé au point de photographier ses victimes et ses trophées avec un appareil Polaroid, est encore soupçonné de 2 autres meurtres en France, celui de Benedicta Edwards, 23 ans, originaire de la Sierra Leone. Elle se prostituait aux abords de la gare de Troyes, retrouvée étranglée au mois d'août 2002 dans un bois de la chapelle Saint-Luc. Eckert ne reconnaît pas ce crime sur lequel travaille le SRPJ de Reims. Il était pourtant dans le coin lorsqu'il a été perpétré. Le routier avait retiré de l'argent dans un distributeur à Troyes. En revanche, il se souvient parfaitement avoir embarqué dans son camion, 2 octobre 2006, une jeune femme blonde aux yeux bleus sur une aire longeant la Nationale 44 à Fessieux, au sud de Laon, dans l'Aisne. Agnieszka Boss, une Polonaise de 28 ans, logée dans un hôtel à Reims, mais se prostituait sur les routes de la région. Son corps ne sera retrouvé qu'un mois plus tard, 100 kilomètres plus loin, dans un fossé longeant la nationale près de Suippes, dans la Marne. La police avait pensé à un sordide règlement de compte ordonné par un souteneur bulgare. C'est en fait l'œuvre d'un chauffeur routier qui avait transporté le cadavre sur des kilomètres et s'en était débarrassé le plus loin possible afin de brouiller les pistes. Après quelques semaines d'enquête, Volker Eckert consent à avouer 6 meurtres. Pour les autorités, on est encore bien loin du compte. Le routier allemand pourrait avoir fait sur les routes d'Europe plus de 40 victimes. 41 victimes potentielles pour Volker Eckert. C'est le chiffre établi à La Haye par l'Office européen de coordination judiciaire Eurojust. L'organisme a recensé tous les meurtres et disparitions inexpliquées de prostituées depuis ces 10 dernières années. Autant de crimes qui pourraient être imputés au routier allemand. Ce dernier a reconnu 6 meurtres et ne semble pas en vouloir admettre d'autres. Le décompte s'établit ainsi. 3 prostituées en Espagne, 2 en France et puis le meurtre qu'il avait commis à l'âge de 15 ans. L'étranglement d'une camarade de classe. Au fil des semaines, Volker Eckert paraît de plus en plus se replier sur lui-même. Après son arrestation, il semblait soulagé de pouvoir collaborer avec la police allemande. Il est devenu désormais beaucoup moins bavard, reste confus sur les lieux, les dates. 2 mois après son arrestation, les gendarmes de la section de recherche de Poitiers lui rendent visite dans sa prison de Bayreuth. Devant les policiers allemands, il a déjà admis le meurtre de la Nigériane Sandra Osifo sur l'aire autoroutière de Cherminiac. Les gendarmes ne vont obtenir aucune confidence du tueur au Polaroid. L'entrevue ne dure que 5 minutes. Eckert indique « J'ai déjà reconnu les faits ». Au fil du temps, il s'est lancé dans une espèce de perfectionnement, indique Fabienne Azzori, la procureure de la République de Saintes, qui est alors en charge du dossier Eckert côté français. Pas question pour la France de demander pour l'instant l'extradition d'un homme de moins en moins bavard. Il faut laisser la police allemande agir. Le seul homme qui trouve grâce aux yeux du psychopathe demeure encore et toujours le médecin psychiatre désigné par le parquet, le docteur Norbert Nedopil. Volker Eckert lui raconte dans le détail son enfance dans la petite ville de Plauen, alors en Allemagne de l'Est, le moment où à 10 ans il s'empare de la poupée de sa petite sœur Sabine, fasciné par la chevelure de ce jouet avec lequel il dort. Il va récupérer une mèche de cheveux de sa mère qu'il conserve en secret. En classe, il ne va cesser d'être obsédé par les cheveux des filles. Sylvia Unterdorfel, 14 ans, la première à avoir refusé qu'il la touche, sera aussi sa première victime. 4 ans plus tard, à 19 ans, il est arrêté, condamné pour avoir tenté d'étrangler une jeune femme. Libéré sur parole, il ne va cesser d'agresser des habitants de Plauen. Une trentaine en 8 ans. Il pourrait être l'auteur d'une douzaine de meurtres inexpliqués dans la région à cette époque. Il ne sera pas inquiété pour ses crimes. 2 femmes victimes de tentatives d'étranglement finiront par le reconnaître. Il passera 6 ans en prison, choisissant à sa sortie en 1999 de devenir chauffeur routier international. Vu la dimension européenne de l'affaire et la difficulté de dénombrer précisément le nombre des victimes, la brigade criminelle de Cologne transmet le dossier à l'Office fédéral chargé de la criminalité. Ces policiers spécialisés, habitués à travailler avec les autres polices européennes, ont la charge d'établir une cartographie des crimes pouvant être attribués à Eckert. 40 enquêteurs appartenant à l'Office sont ainsi affectés au seul dossier Volker Eckert. À ces hommes de découvrir toutes les routes empruntées depuis une dizaine d'années par le chauffeur routier, de recenser ses ordres de mission, d'identifier tous les endroits où il a fait le plein, tous les péages franchis en notant les jours et les heures précises. Les informations GPS des véhicules qu'il a pu utiliser sont compulsées. Des demandes de renseignements sont adressées à 32 pays. Le routier pourrait être un tueur en série, un tueur de masse. Bon nombre de ses victimes n'ayant sans doute jamais été recensées. Des prostituées travaillant loin de leur pays respectif et ayant bien souvent coupé les ponts avec leur famille. Si Eckert ne parle pas, la seule chance des enquêteurs est de pouvoir s'appuyer sur des témoignages ou des signalements. Aux 6 meurtres avoués, ça n'ajoute d'autres. On lui attribue ainsi celui de Marie Velezova, une jeune Russe dont le corps longtemps anonyme reposait dans une tombe près de Gérone. Eckert pourrait encore être l'auteur du meurtre d'une jeune femme non identifiée, étranglée près d'une autoroute à Pilsen en juin 2003. Il était dans le secteur. On le soupçonne encore d'être derrière la mort d'une prostituée ghanéenne, Agnew Begali, tuée dans la région de Brescia, en Italie, en septembre 2004. Volker Eckert refuse désormais de prononcer le moindre mot. Le détenu, placé à l'isolement, ne sort que très rarement de sa cellule et paraît résigné. Il semble avoir prématurément vieilli. Il mange peu, a beaucoup maigri. Il ne lit pas, n'écoute pas de musique et passe ses journées sur son lit. Le 1er juillet 2007, 9 mois après son arrestation, on le retrouve pendu dans sa cellule de Bayreuth. La seule femme qu'il estimait, sa sœur prénommée Sabine, était jusqu'ici la seule à lui rendre visite. Elle avait décidé de cesser de venir le voir après avoir pris conscience et déclaré que son frère était un monstre.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.